J'aimerais juste vous dire que Jésus vous aime tendrement. Des fois, des gens me présentent, voilà, Olivier Fleury, il a été responsable de jeunesse en mission pour la Suisse. Puis je suis là, mais en fait, ça, c'est des couronnes qu'on devra jeter aux pieds de Jésus quand on arrivera au ciel. C'est complètement égal. Ce qui n'est pas égal, c'est notre amour pour lui. Et notre amour pour lui ne peut être là que quand lui, il nous aime le premier. Alors, j'aimerais que vous soyez bénis ce matin par l'amour de Jésus. Cet amour tendre, puis à la fois cet amour puissant, cet amour vrai qui conduit, qui va de l'avant, et en même temps celui qui recueille, qui accueille, qui pousse, qui soutient. Alors voilà, soyez bénis ce matin. Je viens d'une famille catholique où on n'a jamais été à l'église. Et donc j'étais dans une connaissance de Jésus absolument zéro. J'avais une idée d'une espèce de crucifix, voilà, il était mort, un gars, là, il y a longtemps, très très longtemps. Puis j'avais une autre notion de Jésus, c'était à Noël, quand en fait on faisait les cadeaux le 24 au soir, pas le 25, et puis on devait monter dans notre chambre avec mon frère, et mes parents préparaient les cadeaux, le Père Noël, et puis quand le Père Noël avait fait son job, mes parents allumaient quatre petites bougies qui faisaient tourner un petit carrousel avec des petits anges, puis ça faisait un petit bruit. Je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête. On a été au même catéchisme, hein, c'est ça. Donc ma notion de Jésus, c'était Jésus mort, souffrant sur la croix, et puis c'était les anges qui disaient « les cadeaux sont prêts ». Et c'est vrai, quand je suis devenu chrétien, je me suis converti à l'âge de 15 ans, dans la rue, à Genève, avec Jeunesse en Mission. On m'a invité, je suis venu voir leur pièce de théâtre, que je trouvais médiocre. Et puis, par contre, le message était absolument poignant, et je me suis dit, purée, si cette histoire de Jésus, c'est vrai, j'ai envie de savoir ce que c'est. Alors, j'ai rejoint cette équipe, je me suis incrusté dans l'équipe. Ils n'ont plus rien pu faire que de me nourrir et puis de s'occuper de moi pendant 15 jours où ils étaient là à Genève, ils venaient de Burtini. Et ce qui est rigolo, c'est que 20 ans plus tard, j'étais responsable de Jeunesse en Mission pour la Suisse. J'ai rejoint une église, je ne vous dirai pas laquelle, une très bonne église à Genève. Et la première chose qu'on m'a dit, « Ah, t'es catho ? » Bon, bah, c'est bien que maintenant tu viennes dans la vérité, quoi, parce que vraiment, c'est pas terrible. Parce que l'église catholique, c'est comme une église avec une doctrine de démons, avec... le siège est sur la ville des sept collines, c'est dans l'Apocalypse, et puis le pape est quand même l'Antéchrist. Puis moi, j'ai reçu ça à 15 ans en me disant, ah bon ? D'accord. Puis ils m'ont dit, il faut que tu te fasses... tu t'es déjà fait baptiser ? Je dis, ouais, j'ai le cierge de quand je me suis fait baptiser à 4 mois. Ils m'ont dit, ah ouais, ça, c'est pas important, il faut te faire rebaptiser. Je dis, ah bon ? Ok, alors je me suis fait rebaptiser. Et puis tout d'un coup, bien plus tard, la vie fait que j'ai commencé à travailler pour les cours alpha et des cathos m'ont demandé de les former pour faire des cours alpha. Je disais, Seigneur, comment je vais faire pour former des gens dans une église qui a une doctrine de démons pour qu'ils puissent avoir le plus en plus de gens qui viennent le dimanche matin à la messe où ils prient Marie. Je me suis dit, purée, là Seigneur, j'y arrive pas. Puis dans ses contacts avec les catholiques, d'un coup, il y a un jeune gars que je côtoie, et puis il me téléphone un dimanche soir, il me dit « Olivier, j'ai un truc pour toi, il faut que tu viennes. On va aller en Égypte dans 10 jours, pendant 10 jours, pour faire une marche d'unité. » J'ai dit « Une marche d'unité ?» J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Puis je dis « Mais écoute, je peux pas, j'ai des rendez-vous, tout ça, puis financièrement, tu vois, je suis à Djem, c'est compliqué. » Il dit « Non, non, on te paye tout parce qu'il n'y a pas assez d'évangéliques, il y aura des évangéliques, des catholiques, des réformés, des orthodoxes, il faut que tu viennes. » Puis je dis « Ouais, écoute, je suis pas super motivé, mais écoute, laisse-moi au moins 24 heures, et puis je te dis, mais c'est pratiquement sûr que c'est non. » Le lendemain, je lui dis « Ok, ça me fait plaisir d'aller en Égypte pendant 10 jours, faire une marche dans le désert du Sinaï. Si c'est une marche d'unité, ben on verra bien ce que c'est, quoi. Puis effectivement, je pourrais passer la matinée de vous raconter cette marche, tellement c'était rigolo. Ce qui était le plus drôle, c'est qu'on est arrivé de nuit au fin fond, au milieu du désert. On nous dépose comme ça avec des cars, avec nos valises, et les cars partent dans la nuit. On était là comme des idiots, on était 100 personnes. On fait quoi maintenant ? Tout d'un coup, il y a des jeeps qui arrivent comme ça sur les dunes, qui viennent nous chercher et nous posent dans un canyon. Ils nous disent, voilà, vous pouvez dormir là, demain matin, on vous expliquera tout. Bref, je me mets dans mon sac de couchage, ayant un tout petit peu peur des scorpions, des serpents et tout ce genre de trucs qu'on trouve dans le désert, qui sortent la nuit, ils ne sortent pas le jour. Hein. Et j'entends des bruits infernaux, comme ça. Je me dis, mais c'est la science-fiction, on est, je sais pas, sur la Lune, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, j'ai découvert que c'était des chameaux qui étaient juste là, qui faisaient un bruit la nuit. Je n'ai pas l'habitude des chameaux. Voilà. Et puis, on a un premier speech de l'organisateur qui nous dit, voilà, alors bienvenue dans cette marche de l'unité, cette marche dans le silence. J'étais là, oh mince, oh non, oh je me suis fait eu. Moi qui ai grandi à Genève, vous comprenez, c'est compliqué de marcher dans le silence. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai péché, parce que j'ai choisi de ne pas trop être dans le silence. J'ai toujours essayé de prendre des gens avec moi, des prêtres orthodoxes, des prêtres catholiques. Il y avait même un évêque. Puis chaque fois, je lui disais, ça ne vous dérange pas si on cause un tout petit peu, je serais assez curieux de savoir un peu d'où vous venez, tout ça. Et puis, chaque fois, on s'écartait, parce qu'il y a un tout petit peu de place dans le désert, hein, droite, gauche. Puis on allait sur le côté, puis je leur posais les questions. Je disais, mais puis pour toi, cette histoire de chapelet, Marie, puis pour toi, les orthodoxes, là, les reliques, c'est quoi cette histoire ? Et j'ai pu, à quelque part, comprendre le cœur plutôt que le dogme. J'ai pu comprendre d'où il venait, pourquoi c'est venu ça dans l'Église, pourquoi ça s'est figé. Puis beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses, j'ai trouvé très beau et tout à fait naturel que ça émerge comme ça dans un groupe de croyants. Alors, je ne suis pas devenu catho, absolument pas, mais je crois qu'il y a quelque chose de beau dans toutes les communautés, il y a quelque chose de beau dans toutes les familles. Je ne sais pas comment vous faites vos réunions de famille, mais moi j'ai un frère, et puis c'est vrai, quand on fait Noël ensemble, ben, il y a des choses que, comme il fait, je ne trouve pas génial, quoi. Je ne trouve même pas biblique en fait. Mais on se retrouve parce qu'on s'aime, parce qu'on est frères, parce qu'on est de la même famille. Et je crois qu'on doit avoir un cœur ouvert, on doit avoir un cœur aimant. La parole nous dit qu'on doit aimer les uns les autres et surtout les frères dans la foi. Alors on s'arrête tout au niveau frères et sœurs dans la foi. C'est juste la communauté ici, c'est juste la frate. Hein. Quand même, il ne faut pas exagérer. Les autres, ex de réveil, ouh, et puis alors les cathos. Je crois qu'à quelque part, Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur parce que le salut en Jésus est d'une simplicité extrême, c'est « quiconque invoquera mon nom sera sauvé ». Quiconque invoquera mon nom. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas tout à fait la même théologie que moi et que nous, qui vont être au ciel avec nous. Donc vous savez quoi ? On a encore un tout petit peu de temps pour s'entraîner à s'aimer avant d'être toute l'éternité ensemble. Alors évidemment, on va demander, moi je vais demander d'être dans un certain quartier pour ne pas être trop avec certains, mais entraînons-nous déjà ici et maintenant à s'aimer les uns les autres. Il y a quelques années, je n'arrive pas à vous faire toute l'introduction de comment ça s'est passé, mais avec mon épouse, on a pensé qu'il était le temps de faire un break dans notre ministère. Ça faisait 10 ans qu'on était au service du Seigneur à Jeunesse en Mission et on est parti en Australie, à Sydney. Et on a été faire un complément d'école biblique. On avait fait déjà une école de disciples. On avait fait aussi une école biblique à Dallas, au Texas, qui nous avait énormément plu. Et puis là, après 10 ans de ministère, j'avais vraiment cette envie d'aller plus loin, de creuser, de retourner dans la parole, de revivre quelque chose de fort. Et puis en allant là-bas, ben, on a déposé vraiment notre avenir. On a dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avais la possibilité de recommencer mon métier. J'étais dans les arts graphiques. Et puis de travailler avec mon frère qui a une entreprise. J'avais la possibilité de recommencer avec les cours Alpha ou continuer à Jeunesse en Mission. Et puis là, un matin, dans le cadre de l'école biblique, on avait une espèce de culte, on appelait ça Chapel Time. Et dans ce moment de louange, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme si le ciel s'est ouvert devant moi. C'est comme si j'ai vu des choses, j'ai senti des choses, c'était vraiment particulier. Ça ne m'est jamais arrivé avant, puis ça ne m'est pas arrivé depuis, donc je ne suis pas un gars bizarre. Hein. C'était juste un temps bizarre, un temps étrange, différent dans le temps. Ce moment a duré 3 heures, où vraiment j'avais l'impression d'être en communion, mais à fond de chez à fond avec Jésus, le Saint-Esprit. Et il m'a dit des choses pour moi, pour l'Église, pour notre avenir, pour l'avenir de la planète. C'était d'une douceur et d'une puissance en même temps. C'était d'une douceur et d'une bonté. C'était waouh. Et mais vraiment, l'éternité, ça va être cool. Hein. Si c'est comme ça, mais pas juste 3 heures, plus long, hein, ça va être vraiment, vraiment super. Et une des choses que j'ai vues, qui était comme un film qui s'ouvrait devant moi, c'est, j'ai vu la planète Terre, comme si j'étais sur la Lune. Et puis, je voyais le soleil qui se levait sur le globe et qui atteignait, qui chassait les ténèbres, qui atteignait comme ça des zones urbaines, rurales. Ça avançait, et plus le soleil avançait sur la Terre, et plus il y avait des éclats de lumière, mais extrêmement puissants, qui sortaient de la planète. Et c'était tellement fort, j'étais là, oh, « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» C'était tellement beau, tellement impressionnant de voir la planète. D'ailleurs, une petite parenthèse, mon rêve, si jamais vous avez envie de vous cotiser, mon rêve, ça serait de faire un vol en dehors de l'atmosphère et de voir la planète en un coup. Ça, c'est mon rêve. Fermez la porte. Et je voyais comme ça ces éclats de lumière qui sortaient. C'était d'une beauté. Je disais, mais Jésus, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup, comme ça, en une fraction de seconde, j'ai vu une foule sur des gradins, une foule de toutes les couleurs différentes d'habits, de peau. Et je savais que c'était des gens de toutes les ethnies, du monde entier. Et puis je voyais aussi que c'était des vieux, des jeunes, qu'il y avait des hommes, des femmes. Il n'y avait pas de différence. Et en même temps, tout le monde était différent. Et puis je voyais aussi autre chose. Puis alors ça, demandez-moi pas théologiquement comment ça tient debout, mais je voyais qu'ils étaient de toutes les églises. Il n'y avait aucun doute, c'était un fait. Je savais qu'il y avait tous les gens qui aimaient Jésus. J'étais là, waouh, c'est beau, Seigneur, c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai eu quelque chose en moi qui me disait, c'est tous ceux qui croient en moi, c'est ceux qui croient à la résurrection, et ils sont rassemblés pour célébrer les 2000 ans de la résurrection. Et quand j'ai reçu ça en moi comme ça, mais c'est comme si je me suis pris un wagon sur la tête, un train en pleine face, j'étais là. Oh, et alors, on fait quoi, Seigneur? On fait quoi avec ça? Et je dois vous avouer que les 3 années qu'on suivit, j'ai pas tellement osé partager ceci. J'ai gardé ça en moi. J'ai prié en disant, Seigneur, tu t'es trompé 10 000. Je suis pas le bon gars pour ça. J'ai pas l'arrière-plan, j'ai pas les finances, j'ai pas la mission derrière moi, j'ai pas l'église, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut que tu te débrouilles autrement, il faut que tu te débrouilles avec d'autres, moi j'arrive pas. Et depuis ces années, c'était en 2007, le Seigneur a confirmé d'une manière mais extraordinaire. J'ai voyagé sur tous les continents, j'ai visité 45 pays, où j'allais parler avec des responsables d'église en leur disant « Tu en penses quoi? Comment est-ce qu'on pourrait célébrer les 2000 ans de la résurrection? Toi, dans ton pays, dans ton contexte ?» Alors si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous fais une toute petite pub là. Vous savez, quand on regarde la télé, c'est chaque fois le moment de la pub, c'est pénible. Alors si jamais vous avez besoin de, je sais pas, d'aller aux toilettes ou faire un petit WhatsApp, c'est le bon moment. Ce livre parle justement de comment j'ai reçu cette vision, mais aussi comment ça m'a impacté. Et puis, comment est-ce que Dieu a confirmé en Israël, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Et puis pour vous, allez, ça c'est vraiment la pub, de la grosse pub, pour vous, au lieu d'être 20 francs, je vous le fais 10 francs. Et en plus, je vous donne une BD d'Alain Auderset, alors ça vous ne pouvez plus résister. Donc 10 francs pour ce bouquin. Et puis, une autre pub, je le fais tout de suite, ça vient de sortir. Le premier bouquin, je l'ai écrit il y a 3 ans. Celui-là, il vient de sortir en mars. En route pour 2033, c'est un roman. Je me suis posé, je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'on va vivre ces moments en 2033? Alors, j'ai choisi 5 personnages. Aux États-Unis, en Israël, à Rio de Janeiro, dans un des pays d'Estan, et puis à Genève, pardonnez-moi. Et puis, ces 5 bonhommes vont vivre entre 2029 et 2033. Et pour mes 2 bouquins, le premier chapitre se trouve sur notre site internet. Vous pouvez trouver gratuitement le premier chapitre des 2 bouquins. Et puis celui-là, alors grosse pub, Celui-là, il est 33 francs, je sais, c'est un petit peu cher, mais si vous l'achetez, je vous donne un deuxième livre qui est extraordinaire, qui est « Oser vivre sur la corde raide » de Lauren Cunningham, qui est mon héros. Voilà, ça c'était un petit instant pub, je vois que personne n'a été aux toilettes, merci, c'est très gentil. Et je vais essayer de replonger dans mon message, si j'y arrive. En fait, ce projet de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus, on a eu beaucoup de peine à se dire, mais comment est-ce qu'on va l'appeler? Est-ce que le nom est vraiment important? Et puis, on s'est dit que ça s'appellera Jésus Célébration 2033. En gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est célébrer les 2000 ans de la résurrection. En quelques mots, ça doit se faire dans tous les pays du monde, ça doit se faire dans toutes les régions du monde, ça doit se faire dans toutes les villes et tous les villages. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour piloter ça depuis la Suisse avec un esprit très suisse et cartésien? Eh bien, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand je vais dans un pays, là dernièrement j'étais en Russie, j'ai pu rencontrer le numéro 2 de l'église orthodoxe russe, et on essaie de lui présenter ce projet en lui disant « Comment est-ce que vous allez faire en Russie pour célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus ?» Puis le gars, il s'appelle Métropolite Ilarion Alfeyev. Attention, c'est pas n'importe qui. Et il lève la main comme ça, comme s'il était à l'école. Puis il dit « Ça vous dérange si je vous interromps ?» Puis on lui dit « Ben non, bien sûr. » Et il dit « Ça fait 3 ans que j'ai la même idée que vous. J'aimerais qu'on puisse célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus partout en Russie. » Si vous voulez voir son interview, vous pouvez aller sur notre site internet jc2033.world. World comme le monde, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà. En fait, on a tout un blog qui parle de tous nos voyages aussi. Pour les plus jeunes, on est sur Facebook. Vous pouvez regarder Olivier Fleury, puis je raconte toutes mes histoires de tous ces miracles que Dieu fait. C'est vraiment génial. Dieu est un Dieu fantastique. Alors vous me direz, ouais, mais j'aurai quel âge en 2033? Ouais, pour certains, vaut mieux pas réfléchir, ça vaut pas la peine. Et puis, en même temps, on se dit, ouais, mais c'est dans 14 ans et demi, Olivier, mais tu fais quoi depuis maintenant 10 ans pour ce projet? Et tu vas faire quoi pendant 14 ans? Viens nous retrouver 2 ans avant, puis on organise un petit truc, quoi. Ben, je dois dire que les églises évangéliques, elles sont beaucoup plus flexibles que certaines églises mondiales, comme les luthériens, par exemple, ou les orthodoxes. Parce qu'en fait, les orthodoxes, on croit que c'est un groupe, mais c'est 77 églises nationales ou régionales. C'est extrêmement compliqué. Et sans parler de l'église catholique, où c'est quasiment impossible, en tout cas pour un petit gars comme moi, d'aller serrer la main du pape pour lui dire et d'y voir qu'est-ce qu'on pense. On fait les 2000 ans de la résurrection ensemble. Et c'est ça qui est hyper beau et hyper drôle. En 2004, le Seigneur m'a dit très précisément, « Olivier, si tu m'obéis, je vais t'ouvrir des portes que tu ne peux même pas imaginer. » Et effectivement, il y a presque exactement 2 ans, j'étais à Rome pour faire des recherches dans les archives secrètes du Vatican. Pourquoi? Parce que les catholiques ont déjà fait un immense truc en 1933 pour les 1900 ans de la rédemption, donc la mort et la résurrection de Jésus. Et on m'a proposé, un prêtre m'a dit, va au Vatican, on va faire des recherches. Gros problème avec les archives secrètes du Vatican, c'est qu'on ne rentre pas comme ça, donc on a eu pas mal de peine. Deuxième chose, c'est que c'est tellement grand que si vous mettez leurs bouquins l'un à côté de l'autre, comme ça, dans un rayonnage, c'est la distance Genève-Lausanne. Donc pour trouver un truc là-dedans, c'est assez compliqué. On a eu beaucoup de peine. Et puis comme on n'arrivait pas à rentrer dans ces archives, j'ai pris mon iPhone et puis j'ai fait une petite vidéo sur la place Saint-Pierre à Rome. Le pape n'était pas derrière. Il y avait juste la basilique. Et puis j'ai dit comme ça, « Hey, priez pour moi, on est coincé, on voulait rentrer dans les archives secrètes, ça serait vraiment super si plusieurs puissent prier, et puis si vous priez pour nous, cliquez like, ça serait vraiment cool. » Voilà, j'arrête ma vidéo, on va boire un verre, puis je dis à mon équipe, je dis, « Ouais, il faut déjà avoir la foi, mais je ne sais pas comment on va rentrer dans ces archives. » Moins de 24 heures plus tard, par un concours de circonstances impossible, mais strictement impossible. Un Argentin ami du pape François, était dans un avion. Il a vu ma petite vidéo Facebook. Il arrive à Miami, il m'écrit un mot. « Qu'est-ce que tu fais à Rome, Olivier ?» Je lui dis voilà, j'essaie de rentrer dans les archives secrètes. Puis il me dit « Moi, j'arrive demain. » Je lui dis « Mais si tu arrives demain, c'est pour aller voir ton copain Jorge Bergoglio, le pape François ?» Il me répond « Oui. » J'étais là « Waouh !»« Alejandro, prends-moi avec !» Il faut que tu me prennes avec. Ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'il faut que j'aille voir le pape François. Prends-moi avec. Il me dit, je suis pas sûr, je vais prier. Vous savez, c'est Jim qui prie pour tout. Je suis pas sûr, je vais prier. Quelques heures plus tard, j'étais dans un salon grand comme la partie là derrière où il y a les enfants. Le pape François, Alejandro, le responsable de jeunesse en mission Argentine, et moi-même. Et j'ai pu lui parler de ce projet 2033 en français. Il avait les yeux qui pétillaient. Il m'a dit, waouh, ça c'est un beau projet, c'est un grand projet. Merci, monsieur Fleury, de le prendre en main et de faire que ça se passe. J'étais là. Je me suis dit, il aurait quand même pu dire, on va vous aider, tu vois, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu un moment avec cet homme que je crois être un homme de Dieu, avec qui je ne partage pas toute sa théologie, évidemment, mais qui a une responsabilité énorme, une autorité énorme sur la planète. Et je sais qu'il aime Jésus de tout son cœur. Et je sais qu'il aime la parole de Dieu. Et c'est vraiment un homme très, très intéressant. Si jamais vous avez eu l'occasion de voir le film qui est sorti il y a quelques mois, Le pape François, un homme de parole. J'aimerais vous encourager à voir ce film. En voyant ce film, j'avais l'impression de revivre ce moment avec lui dans ce petit salon. C'est très intime, c'est très intimiste, c'est vraiment un très très beau film. Alors, comment est-ce qu'on va arriver de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Vous voulez que je vous réponde? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus nous demande d'être ensemble. De venir ensemble, de découvrir l'autre, celui qui est un peu différent, celui qui nous pose un peu souci, question dans sa manière de faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller rencontrer des orthodoxes, des anglicans, j'étais avec Justin Welby, le primat des anglicans, là au mois de juillet. Vous pouvez voir tout ça sur notre site internet. Et d'être ensemble, tout d'un coup, on réalise qu'on est frères et sœurs. Tout d'un coup, on réalise qu'on n'est pas si différent que ça. Tout d'un coup, on réalise qu'on aime Jésus les uns les autres. Alors, pourquoi est-ce que je crois à l'unité des chrétiens? Parce que Jean 17 nous dit ceci. Hein. Peut-être vous savez, Jean 17, l'unité. Jean 17, 22-23 nous dit ceci. C'est Jésus qui prie Dieu. Hein. Ce n'est pas juste un petit verset comme ça de rien du tout. C'est Jésus qui prie son Père et il dit... Alors, ils seront un, Jean 17, 22. Alors, ils seront unis, comme nous sommes unis, moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Et souvent, on se dit, ah voilà, l'unité, oh non, il faut qu'on devienne cathos, les cathos, ils voulaient nous rassembler, allez, venez seulement, revenez à la famille. Mais ce n'est pas ça du tout. L'unité n'est que le passage, n'est que la porte. C'est un tout petit passage. L'unité n'est que la porte. Au verset 23, il dit « L'unité, alors le monde saura que tu m'as envoyé. » Le fait d'être uni, c'est pour que le monde sache que Jésus est venu sur terre, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est pour ça l'unité. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on s'aime les uns les autres malgré nos différences pour que le monde croit qu'il est venu. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est un autre problème. Mais si on est désunis devant le monde, on n'est absolument pas crédible. Je vais finir par quelques phrases un petit peu... cru. L'unité, ce n'est pas la fin en soi. Le but ultime de l'unité, c'est la vie et c'est la multiplication. Vous trouvez ça aussi dans le couple. L'unité amène la vie et la multiplication. Que ce soit pour un couple, un ministère, ou pour une église, ou pour tout le christianisme, si on est unis, alors nous allons apporter la vie et nous allons apporter la multiplication. Dans quelques jours, le 15, 16, 17 novembre, on se retrouvera ici pour rassembler justement des gens autour de ce projet de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Merci d'avoir accepté, David et l'équipe, qu'on puisse faire une conférence de 3 jours ici. Et le jeudi soir 15 novembre, sur cette scène, nous aurons des réformés, des catholiques, je crois des orthodoxes anglicans, évangéliques, et on va réfléchir sur l'unité. Les 2 jours suivants, on va travailler sur les textes qui viennent dans la Bible après la résurrection. Comment est-ce que les disciples ont fait après la résurrection ? Ça sera Paul Hemmes qui va nous parler de ça. Et on aura des ateliers faits par des orthodoxes, par des catholiques, par des réformés. Ça va être pas mal. Un petit avant-goût de ce que Jésus est en train de préparer pour la terre, mais aussi pour le ciel. Merci beaucoup.